7,3 kg. C'est ce que consomme, en moyenne, un Français par an en chocolat. Et c'est énorme. Mais est-ce que vous savez seulement d'où vient ce chocolat que nous consommons tous? Comment est-ce qu'il est cultivé? Quel impact a-t-il sur le monde, sur l'environnement, sur les pays producteurs? Je suis Léa Reverdy et avec mon podcast Papille, depuis 2021, je pars à la rencontre des acteurs du sucré pour comprendre leur processus créatif. Et cette année, pour Pâques, j'avais envie de répondre à toutes ces questions autour de ce produit si consommé, mais plein de secrets, le chocolat. Alors pendant plusieurs semaines, je vous emmène avec moi à la découverte des coulisses de l'univers chocolaté. Au programme, rencontre avec des experts et expertes, discussions passionnées et échanges chocolatés. Bienvenue dans cette petite série documentaire dédiée au chocolat. Bonjour Naomi.
Bonjour Léa.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, matinalement, très très bien.
Oui, de ton côté c'est matinalement, chez moi. Chez moi il est un peu plus tard, mais c'est vrai que toi il est encore assez tôt.
Ouais.
Je suis super contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui dans toute cette série autour du chocolat. Pour commencer, j'ai quand même envie de te demander, toi, c'est quoi ton affinité avec le sucré et c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite?
Je suis très très gourmande. donc oui, j'ai très tôt eu accès à des petites pâtisseries essentiellement. Pas des bonbons parce qu'on n'était pas des gros mangeurs de bonbons à la maison. Maman faisait très attention à ça. Mais des bonnes pâtisseries, des bonnes viennoiseries, on avait droit à ça tous les jours. J'ai une maman qui aimait pâtisser. Donc du coup, on avait des crêpes tous les matins, imagine-toi.
Oh la chance.
Non mais vraiment. Et on avait un rituel en fait en fin d'après-midi, une fois qu'on sortait de l'école, on avait le moment tea time et chocolat chaud time en fait. Donc c'était un rapport très très personnel avec le sucré.
Et alors, le chocolat, comment t'es tombée un petit peu dans cette marmite, du coup, de ce côté-là? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'en faire ton métier?
Comment je suis tombée dans... Je crois que la première fois, c'est ma mère qui m'avait acheté un livre sur les moulages en chocolat. Je devais avoir eu 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Et ça me fascinait, en fait, de voir qu'on pouvait créer des formes comme ça avec... avec cette matière-là. Donc, mon premier contact avec le chocolat moulé, c'était ça. Maintenant, comme je disais avant, le tout premier contact, c'est le chocolat chaud parce qu'en fait, c'est culturel chez nous. C'est très, très culturel. Il y a des cacaoyers en Guadeloupe. Il y avait des cultures du cacao en Guadeloupe. Et donc, du coup, on a... en moyenne tous au moins un cacaoyer chez soi et ça fait partie en fait vraiment intégrante de la culture. Donc c'était une évidence qui était un peu cachée. J'ai grandi avec dans un coin de ma tête et comment j'en ai fait mon métier, ben c'est tout simplement en découvrant un peu toutes les faces cachées du chocolat et que je trouvais que c'était complètement hallucinant de pouvoir parler de chocolat, d'aimer ce produit-là, d'en avoir une histoire vraiment, vraiment importante et en fait de rien en faire, puisqu'on s'arrêtait au cacao chez nous, on appelle ça des bâtons de cacao, donc on transforme la matière en boule ou en bâton de cacao et on s'arrêtait à ça, on faisait pas de chocolat. Donc, je trouvais ça quand même incroyable. Qu'on n'arrive pas à aller plus loin, qu'on n'arrive pas à transformer alors qu'on avait des cacaoyers.
Oui, sur place.
Voilà. Donc, je trouvais ça quand même dingue. Et c'est parti de ce constat-là, tout simplement.
Alors, du coup, Donc, le chocolat chaud de quand tu étais petite, c'était pas... Enfin, c'est du... Du coup, il était fait comment? C'était directement les fèves de cacao qu'on
utilisait? Très bonne question. Très bonne question. En fait, on récupère les fèves de cacao. Initialement, on les pour partie sur le territoire, elles sont lavées. Pour d'autres, je l'ai appris au fur et à mesure de mes recherches, pour d'autres, non, elles étaient séchées directement. Donc, première chose, on écabosse, ça veut dire qu'on ouvre la cabosse, on va récupérer les fèves, on va les faire sécher. Et puis après, on va les broyer dans un petit moulin. Donc, ma grand-mère, ou quasiment toutes les grand-mères en Guadeloupe, avaient un petit moulin pour broyer les fèves. Et de ce broyage, en fait, naissait une masse de cacao qui était très, très, presque liquide, dont le gras, donc le beurre de cacao, sortait un peu et permettait de mouler sous forme de petits bâtons ou de petites boules, selon les communes où on est. Et qui permettait donc de faire ces fameux bâtons de cacao que l'on grageait en fait pour faire le chocolat chaud. Alors après, pour la petite histoire, il y avait tout un cérémonial selon les niveaux sociaux autour de ce chocolat-là, donc avec essentiellement des épices locales, vanille, le sucre qui coûtait très très cher à l'époque, un peu de muscade, un peu de cannelle, et il y avait une personne dans certaines maisons, dans certaines habitations, une personne qui était dédiée à cette fabrication du chocolat chaud. Donc c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'art chez nous. Donc plus ou moins avec des personnes qui avaient des moyens ou pas, s'il y avait la possibilité de rajouter des épices, ben, il y avait, sinon uniquement un peu de sucre et un peu de cacao, puisque c'était une matière qui coûtait très cher. Donc on appelait ça, pour ceux qui avaient peu de moyens, on appelait ça de l'eau caco. En créole, donc on dit eau de cacao, parce que c'était vraiment extrêmement dilué.
Et alors moi, ce qui m'intéresse justement énormément, c'est qu'effectivement, toi, contrairement à la grande majorité en vrai des chocolatiers, t'as grandi du coup avec un cacaoyer dans ton jardin et du coup t'as vu en fait toi les plantations etc. Mais du coup c'est ce que tu disais, c'était aussi enfin c'est aussi quelque chose enfin qui du coup s'arrête finalement à les enfin à la fin, aux fèves et après on va pas ensuite Tu vois, à quel moment est-ce que toi tu t'es dit, donc tu m'as dit, tu vois, genre c'est dommage en fait qu'on le transforme pas complètement. À quel moment, tu vois, c'est vraiment devenu un sujet pour toi et où tu t'es dit, en fait, j'ai pas envie que en Guadeloupe, enfin, tu vois, on puisse pas aller plus loin et vraiment je veux passer cette étape, je veux fabriquer des tablettes de chocolat, aller plus loin pour tout ça. Et est-ce que ça a été compliqué à mettre en place?
J'aime bien la deuxième partie de la question. On va
Et
en
ton rire
parler.
en dit beaucoup.
Oh, oui. À quel moment? Bah, moi, j'ai démarré. Ouais, j'ai commencé à transformer en fin 2008, fin 2008, début 2009. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a eu un très grand mouvement social en Guadeloupe en 2009, ce qui m'a permis ou m'a donné le temps de mieux comprendre la situation sociale, socio-économique de mon île, et surtout de prendre le temps d'en apprendre un peu plus sur l'historique autour de cette matière-là. Et de prendre conscience justement ben, du fait qu'on est sur une île et qu'on a 80% de la matière qui est importée chez nous. Et de se dire, mais c'est pas possible, on a de trop belles choses, de trop beaux produits pour qu'on puisse pas en faire quelque chose, pour qu'on puisse pas s'approprier nos matières premières et en sortir quelque chose. Alors à l'époque, je savais pas que ça allait m'emmener jusque-là, mais dans l'idée déjà, c'était ça, c'était un peu viscéral de se dire bah j'ai envie de faire un chocolat à partir de cabosse et de fèves de cacao de chez moi, parce que je faisais beaucoup d'aller-retour entre l'Hexagone et chez moi. Et qu'on faisait le tour des chocolateries à Paris avec ma mère, et que je goûtais des bonbons de chocolat, et que je me dis, mais ça, c'est un bonbon à la passion, ça, c'est un bonbon à la goyave. Moi, c'est des produits que je connais, avec lesquels j'ai grandi, et je ne trouvais pas forcément le goût. Donc, je me suis aussi dit, mais il y a un truc à faire avec ça. On a ces matières-là chez nous, donc ce serait bien de les valoriser, pardon, de les. Voilà, d'en faire quelque chose, quoi. Ça avait du sens, en tout cas pour moi. Donc, c'est vraiment parti de là.
Oui, puis c'est dommage en fait de te dire, ben, en fait, on a la matière première et c'est nous qui la cultivons, mais on n'a même pas le produit final. Enfin, on n'en a
Je
même pas
trouve,
en direct, quoi, ouais.
je trouvais ça vraiment incroyable qu'on n'y pense pas, qu'on n'ait pas réussi à aller plus loin. J'ai mieux compris pourquoi après, hein, pour répondre en partie à ta deuxième question. Parce que c'est beaucoup de boulot. Mais ouais, je trouvais ça complètement dingue qu'on n'arrive pas à en faire quelque chose. Pour la petite histoire, la Guadeloupe a été premier producteur de cacao mondial dans les années 1700, donc la France. Et on a tout arrêté.
Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'allais dire aujourd'hui, c'est pas, ça fait pas partie des pays les plus, enfin, ça fait pas partie des premiers pays producteurs.
La France faisait partie des premiers pays producteurs à l'époque, grâce aux anciennes colonies, du coup, dont la Guadeloupe. Et du coup, cette culture, elle a été arrêtée sur plusieurs phases. D'abord parce qu'il y a eu des choix économiques qui ont été faits. On a préféré passer sur de la canne et de la banane. Parce qu'aussi, le cacaoyer a eu une maladie qu'on retrouve encore, hein, dans certaines zones du monde, qui s'appelle le balai des sorcières. Donc la Guadeloupe a été touchée de plein fouet par cette maladie. Et donc du coup a été décidé au niveau politique de choisir d'autres cultures. Et donc on donnait une aide à l'arrachage aux planteurs pour pouvoir arracher les plants de cacao et replanter de la canne et de la banane. Ce qui a été fait, il reste encore évidemment pas mal de vestiges et d'anciennes exploitations. C'est en grande partie où je me fournis. Certains agriculteurs ont gardé leurs petites exploitations, ont fait de la diversification sur le côté. Et donc du coup, c'est avec ça qu'on travaille, tout en remettant en avant la filière, mais ça on va en parler je pense après. Mais ça a été historiquement assez dur pour cette filière-là, puisqu'elle a quasiment complètement disparu. N'est resté que les rituels, les us et coutumes autour de cette plante, qui, comme je le disais tout à l'heure, fait partie intégrante de ce qu'on appelle le jardin créole. Et donc, on retrouvait dans les maisons cet arbre-là.
Et donc toi, du coup, quand tu commences à te dire, ok, bah, je veux transformer la fève en tablette, qu'est-ce qui est le plus, enfin, tu vois, qu'est-ce qui est le plus compliqué justement? C'est quoi un petit peu les étapes, les problématiques auxquelles tu es confrontée, tous les enjeux qu'il y a autour de ça?
Il y en a eu plein, Léa.
Ouais,
Il y en a eu
j'imagine.
vraiment. La première étape, c'était de savoir comment on allait transformer cette fève-là. Ça n'a pas été évident parce que ça s'apprend pas à l'école. En CAP chocolatier, CAP pâtissier, t'apprends à fabriquer des
Des
sculptures en
bonbons, ouais.
chocolat, des bonbons, des ganaches, des produits à partir de matières finies ou semi-finies. Mais on t'apprend pas le début. Et en tout cas, à l'époque, dans les manuels, on disait strictement rien du tout. Moi, quand j'ai démarré, on était au début, au balbutiement de ce qu'on appelle maintenant le bean to bar. Donc, c'était pas commun du tout. Et quand j'ai commencé à fouiner un petit peu, parce que ça a été d'abord, pour moi, c'était vraiment important d'avoir une grosse partie recherche, savoir comment c'était fait, pourquoi ça a été arrêté, pour un peu donner du sens à ce que je faisais, à mon travail, et vraiment savoir si on s'arrêtait vraiment à cette transformation unique en cacao. Aussi, il y avait eu des tentatives. Donc, j'ai appris qu'il y avait des anciennes chocolateries, oui, mais pseudo-chocolaterie, puisque ça s'arrêtait au cacao vraiment. Et essayer de me plonger, en fait, dans cette matière-là, que ça a été corré à malade.
J'imagine que c'était un gros, gros sujet, hein.
C'était pas mal. Fallait donc récupérer les fèves. J'ai essayé X fois de faire sécher d'abord, jusqu'à ce que je comprenne que ben il faille mettre la fermentation, que c'était important. Parce que cette fermentation avait un impact énorme sur le goût du cacao.
Ouais.
Donc regarder un peu ce qui se faisait dans le monde aussi. Tester, 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 retester, perdre de la matière, retester. J'ai testé des centaines et des centaines de fois pour commencer à maîtriser cette matière-là. Ça a été le plus gros challenge. Je le faisais sur mes deniers personnels en plus, donc du coup, ouais, ça a été une période assez compliquée, mais l'une des périodes les plus joyeuses, parce que j'étais dans l'exploration la plus totale, et donc du coup, ouais, je me suis trompée plein de fois, j'en ai ri plein de fois. Tu crées des matières incroyables. Avec des couleurs bizarres et des goûts surtout bizarres et jusqu'à ce que ouais j'apprivoise cette matière-là que je fasse marcher un peu ma tête et que je fasse marcher surtout la on dit technologie alimentaire mais là ouais la tout ce qui est un peu chimie alimentaire. Mieux comprendre en fait pourquoi tel ou tel élément fonctionne dans cette matière-là, de quoi elle est composée. Là, tu dis merci l'école. et voilà, je pense que j'ai beaucoup appris en me trompant. C'est ce qui m'a permis de comprendre un peu tous les aspects de cette matière-là et de réussir à faire quelque chose de bon, parce que c'était aussi ça, c'était se dire oui, d'accord, je transforme, c'est bien. Tu peux avoir toutes les machines que tu veux, hein. Un chocolat, c'est une matière qui est extrêmement particulière, il faut qu'il soit bon. C'est pas bon, bah, les gens, ils aiment pas, point barre. C'est assez tranchant comme matière. Donc après avoir réussi à transformer, fallait réussir à faire du bon. Ça a été un autre challenge.
Mais toute cette partie, parce que du coup tu t'es auto-formé sur comment on transforme de A à Z
Exact.
une cabosse, enfin une fève en tablette de chocolat. Et justement, avec tout après les recherches, tu vois, pour arriver à des tablettes bah, qui ont le goût que tu souhaites, ça t'a pris combien de temps?
Ça m'a pris 3 ans de recherche parallèlement à mes essais. Et puis après, réussir à sortir ce que je voulais. Ouais, au total, 6 ans à peu près.
Ouais, effectivement, donc
Ouais, 6 ans.
c'est un grand, grand travail, enfin, c'est un gros projet, quoi, c'est
C'est
vraiment.
un gros projet. J'ai compris au fur et à mesure que bon, je rentrais dans quelque chose qui était assez long comme type de projet, que c'était un business plan qui n'existait pas encore sur mon territoire. Au fur et à mesure, j'ai compris qu'il y avait une énorme partie agricole dans mon métier, donc je pourrais pas m'en défaire puisque ma matière vient de là. J'ai créé des liens avec des agriculteurs. Je suis rentrée en plein dans l'agriculture. J'ai passé un brevet d'exploitation de responsable agricole. Je suis vraiment rentrée dedans. J'ai compris que c'était quelque chose de très très long et que ça allait pas se faire en 2 jours, quoi.
Et alors, justement, sur toute la partie agricole, tu commençais à en parler un peu tout à l'heure, mais donc, comme tu nous l'as expliqué, il y a de moins en moins d'exploitations quand tu commences à faire tout ça. Du coup, comment est-ce que tu te fournis? Enfin, tu vois, peut-être aussi, pour commencer, enfin, pour avoir une vision un petit peu plus globale, aujourd'hui, tu vois, en Guadeloupe, c'est quoi à peu près la quantité de production de cacao? Et du coup, toi, comment, enfin, tu vois, vers qui tu t'es tournée? Et est-ce que en plus, c'était facile entre guillemets de, tu vois, travailler aussi avec les producteurs de cacao sur place? Ou est-ce que, en fait, eux, parce qu'il y a quand même un peu ce truc-là de, en fait, c'est, ils travaillent vraiment pour après l'exporter dans différents pays, dans différents pays. Mais tu vois, vraiment, ils travaillent pour ça et du coup, ils peuvent pas vraiment t'en vendre. Enfin, comment ça?
C'est encore plus compliqué que ça.
Ouais.
pas d'export du tout. En fait,
Ouais.
j'ai vraiment découvert qu'il n'y avait pas de, il y avait pas de filière du tout, Léa. Il n'y avait rien. Donc ça restait au stade de la petite consommation territoriale. C'était vendu sur les marchés. Je parle bien de la matière cacao, hein, pas la transformation. Il y en avait pas. Ça n'existait pas sur les territoires avant que j'arrive, tout simplement. On faisait pas de chocolat. C'est ça, exactement. Mais ça n'allait pas plus loin. Et donc, en fait, quand je suis arrivé, il a fallu échanger avec des agriculteurs, leur expliquer un peu le projet, leur expliquer un peu ce que je fais. Beaucoup n'ont pas compris. Tu parles à des personnes qui avaient déjà un certain âge. Moi, j'arrive, je suis toute jeune. Tu as un écart générationnel qui est assez énorme. Donc, il fallait réussir à se faire entendre, à se faire comprendre. Et ça, pour ça, les métiers de bouche, quand même, il y a rien de mieux parce qu'une fois que tu fais goûter, ben, on comprend mieux. mais c'est vrai que ça n'a pas été facile ou ça n'a pas été tout rose avec tous, mais il y en a qui ont vraiment compris, qui m'ont donné de la matière pour commencer. Vraiment donné, ils en faisaient rien. Pour apprendre à maîtriser la matière, juste en échange, je leur en ramener qu'ils puissent goûter aussi. Donc c'était des beaux moments d'échange avec ces personnes-là. Ça a été un énorme apport personnel, notamment sur le plan patrimonial et culturel, puisque du coup, ces personnes m'ont beaucoup inspiré, beaucoup parlé de comment c'était avant. C'est très rare d'avoir des anciens qui te parlent de comment c'était avant. Le passé de la Guadeloupe est assez violent. Donc du coup, d'entendre un peu les retours de ces personnes, de savoir les us et coutumes, comment ils récupéraient le beurre de cacao, par exemple, des choses comme ça, ça a été des moments extrêmement précieux pour moi et pour ma construction et pour la construction de l'entreprise. Donc ça, et je dirais toujours merci à toutes ces personnes qui ont été là au départ. Et pour répondre à ta question, j'ai eu beaucoup et jusqu'à présent beaucoup à récupérer cette matière en forêt primaire sur des anciennes exploitations qui sont devenues de la forêt d'ailleurs. Une forêt chez nous, ça pousse extrêmement vite. On a 365 jours de soleil, un peu d'humidité, un peu de pluie et ça pousse donc ça va très très vite. Donc je récupère beaucoup en forêt. Je vais chercher seul au début, avec quelques amis ensuite, en famille beaucoup. Et on récolte, on ramène tout au niveau du laboratoire et on transforme. Cette matière-là, elle n'est pas vendue à l'extérieur. En l'état, en tout cas. La quantité que nous on arrive à produire, elle est environ d'une tonne à peu près par an quand ça va bien, quand au niveau du climat ça va, quand il n'y a pas de cyclone, quand il n'y a pas tout ça. On est sur 1,5 tonne, 1,2 tonne les meilleures années. Et donc c'est très très vite posé la question de revaloriser cette filière-là, de se mettre des objectifs de travailler avec, avec des jeunes agriculteurs, avec tous ceux qui avaient envie de travailler, tous ceux qui avaient envie de revoir cette filière-là, cette culture-là chez nous, de se mettre tous ensemble et de travailler autour de cette matière première-là et de recréer en fait la filière. Parce qu'en l'état, on est vraiment en train de monter cette filière-là en Guadeloupe.
Oui, parce qu'effectivement, en fait, c'est pas, enfin, pas que c'est pas viable, mais en fait, tu peux, du coup, ça fait forcément des petites quantités.
Exact.
Si en plus, du coup, c'est toi qui dois aller les ramener. Enfin, en fait, finalement, c'est pas de la cueillette sauvage, mais presque, c'est vraiment, tu vas en forêt, c'est ça.
C'est ça.
C'est assez fou. Et donc, alors, comment, bah, là, du coup, t'en es où actuellement sur tout ça? Aujourd'hui, tu vois, par rapport à tout ça, donc d'il y a plusieurs années, est-ce que justement, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui travaillent avec toi sur ce sujet-là? Enfin, voilà, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'évolution de tout ça?
Il y a de plus en plus d'émulation autour, en tout cas. Les gens commençaient à comprendre que c'est important. On n'est jamais prophète dans son pays. Donc, du coup, il a fallu que j'aille faire mes preuves ailleurs, qu'on entende parler de moi au niveau national, qu'on entende parler de moi un peu au niveau international, pour que les gens puissent prendre conscience, en fait, que c'est important. Qu'on a une carte à jouer là-dessus, qu'on est bien positionné et qu'on a la chance de démarrer du début, en fait, parce que c'est compliqué, oui, mais c'est une vraie chance de pouvoir partir de zéro, voir un peu comment des filières agricoles se sont montées déjà, donc avoir cette expérience-là et se dire, OK, il y a eu des erreurs qui ont été faites, donc du coup, nous, on peut essayer d'éviter ça. Faire bien, faire propre. Donc c'est tout ça qui, toutes ces implications, toutes ces distinctions, ces concours gagnés qui ont permis de petit à petit faire prendre conscience aux gens, que ce soit professionnel ou non, hein, que c'était important de remettre en place cette filière-là. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'émulation autour de ça depuis quelques années.
Et ça, tu l'as fait quand tu as passé tous ces concours, tu l'as vraiment fait avec cette vocation-là en te disant c'est sûr, enfin c'est ça qui va aider aussi à ce qu'après ça puisse se développer.
Les toutes premières fois, non.
Ouais.
Et après, sur les retours que j'ai eus, ben, quand je suis rentrée de Paris en étant espoir du chocolat en 2013, j'ai vite vu l'engouement que ça a eu. On a été tablette d'or l'année d'après. J'ai compris en fait par la suite que du coup, ouais, ça permettait de donner une visibilité au territoire et que ça permettait d'aider à construire quelque chose en tout cas. Et que ça faisait un peu bouger les choses que d'avoir ces reconnaissances nationales ou internationales.
Et du coup, donc, tout ça a aidé. Et aujourd'hui, ça en est où, en fait? Tu vois, est-ce que, enfin, du coup, par rapport au départ, combien de tonnes, du coup, vous produisez à peu près? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a vraiment, du coup, des agriculteurs? Enfin, est-ce qu'il y en a? Combien il y en a avec qui tu travailles aujourd'hui, main dans la main? Enfin.
On est une petite dizaine d'agriculteurs sur le territoire actuellement.
Ok.
Alors, pour bien expliquer, hein, je suis passée de quelques kilos en fait de cacao
Ouais.
à 1 tonne.
Ok, oui.
Actuellement, on est à 1 tonne, 1 tonne 2 quand ça va. Mais au début, oui, j'avais quoi? J'avais une trentaine, quarantaine de kilos. Je suis passée
Ouais.
à 1 centaine de kilos. Et au fur et à mesure, voilà, 200 kilos, 300 kilos, mais vraiment au fur et à mesure, pour arriver à peu près à 1 tonne, parce que chemin faisant, le fait que les gens en entendent parler de moi, ben, le territoire, il est tout petit, donc les gens m'appellent, on me dit, ben voilà, vous savez, Naomi, moi j'ai des cacaos pas loin de chez moi. Mon grand-père en avait sur son exploitation. Venez voir comment c'était. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de bouche à oreille autour de ça. Et ce qui a permis d'identifier les zones où il y en avait et d'agrandir un peu cette quantité-là.
Donc en fait, c'est surtout, enfin, en gros, la première phase, c'était vraiment identifier où est, enfin, en fait, sur des anciennes exploitations,
C'est
finalement,
ça.
où est-ce qu'il y en avait et où est-ce que du coup on pouvait les utiliser.
Exactement. Ça a été aussi un très gros challenge parce que du coup, il fallait cartographier l'île et savoir où il y en avait ou pas. D'où l'importance hein, de la partie historique de savoir où étaient les exploitations avant, où étaient les habitations. Savoir un peu ce qu'il en restait et cartographier en fait les anciennes exploitations, savoir où je pourrais récolter.
Et alors aujourd'hui, du coup, si on se projette un petit peu dans le futur, bah, c'est quoi ton ambition par rapport à tout ça? Vraiment juste sur ce sujet de la production.
Ben, nous, on a commencé à planter, je dis nous parce qu'on ne fait jamais rien tout seul, hein. On est une
Oui.
petite équipe. Petite équipe familiale. Moi, je suis avec mon compagnon sur l'exploitation, qui est aussi agriculteur bio. Nous, on a recommencé à planter. Un peu pour montrer l'exemple aussi, pour permettre que les gens voient un peu ce que ça donne une exploitation, et qu'on donne envie de replanter. On fait les semis, on fait les plants, on a des agriculteurs qui viennent en récupérer, on les donne gratuitement pour essayer justement de faire cette filière-là redémarrer et qu'elle ait un sens. L'idée c'est qu'ils ont un transformateur sur place, donc ils savent déjà où ils vont écouler leur matière première. Donc ça, c'est déjà extrêmement important parce que la culture du cacao, c'est une culture longue. Donc on attend 4 ans et demi, 5 ans avant de commencer à avoir
Et c'est la
des
question que j'allais te
fruits.
poser.
Ouais. Et du coup, bah oui, sur la première année en plus, c'est pas une année qui est extrêmement rentable. L'arbre, il commence à faire des cabosses, donc c'est jamais tout rose. Donc un jeune qui s'installe en agriculture bah, pendant les 4 ans et demi, 5 ans, il faut qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il ait un modèle d'agriculture, un modèle d'installation qui soit autour de ça. C'est pas juste dire aux gens de planter quoi et de pas se poser la question. Il faut vraiment toute une organisation et toute une vision socio-économique de la filière. Donc pour moi, c'est ce qu'il y a à construire et ce qu'on est en train de construire. Parallèlement à ça, ben, dire aux jeunes ou moins jeunes de planter, c'est bien. Moi, de le transformer, c'est super. Mais c'est pas dans 4 ans qu'on va savoir où écouler toute cette matière première-là. Donc, dernièrement, il y a quoi, il y a 2 semaines? Je suis partie au Japon pour présenter les produits, pour montrer un peu ce qu'on sait faire, voir s'il y avait une possibilité de positionner ces produits-là. Et bah justement, de valider cette orientation filière et de savoir si ça vaut le coup ou pas, quoi. Et bon, visiblement, ça s'est bien passé, donc on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie, les produits ont plu énormément, donc ça permet de valider ça et on construit les choses petit à petit, quoi. Ça se fait vraiment doucement.
Bah, en même temps, c'est tellement. Enfin, moi, je suis hyper admirative parce que c'est tellement incroyable et énorme comme projet et comme ambition de se dire, bah, en fait, on va carrément genre tout refaire sur place et tu vois et tout remettre en place. Je trouve ça trop cool. Ma question après, c'est du coup aujourd'hui,
Ouais.
donc puisque toi t'es finalement aussi donc, dans la partie plantation, dans la partie culture du cacao et dans la partie fabrication. Peut-être, c'est quoi un petit peu... Enfin, combien de temps tu passes sur la partie du coup culture? Combien de temps tu passes dans la partie transformation? Pour voir un petit peu aussi qu'est-ce qui te prend le plus de temps. Et d'abord, c'est ça. Après, j'ai des questions. J'ai plein d'autres questions, mais... mais une à la fois.
Il n'y a pas de journée vraiment type, mais il y a des périodes type.
Ok.
Voilà, je vais dire ça comme ça. On a deux grosses saisons en Guadeloupe. Après, comme je disais, on a du soleil tout le temps, donc on a plus ou moins des cabosses quasiment toute l'année. On a deux grosses saisons. On a une première saison qui démarre en toute fin octobre, début novembre. Quoique ça bouge un peu avec le réchauffement climatique.
Ouais.
Et les îles, on est les premiers touchés sur ce genre de conséquences.
Ouais.
C'est à peu près cette période-là, jusqu'à donc, fin octobre, jusqu'à fin février, début mars. On a une belle période. Après, on en a un peu sur le mois de mai. Ça reprend juin, juillet. C'est la deuxième période, fin mai jusqu'à mi-juillet, fin juillet. C'est les deux grosses saisons où on aura des cabosses. Après, on va en trouver, mais vraiment de façon parsemée, clairsemée sur le territoire. Donc pendant ces périodes-là, notamment pendant la première, qui est assez sportive, puisque comme je t'ai dit, fin octobre, début novembre, donc on tombe en pleine préparation des fêtes de Noël.
Ouais.
Donc il faut une sacrée organisation pour démarrer la récolte à cette période-là. J'abandonnais pendant le mois de décembre, je n'essaie même pas, puisqu'on est en pleine période, et je reprends en janvier, généralement, la récolte. La transformation, on l'a fait en amont des fêtes de fin d'année, donc généralement sur la deuxième saison. Donc moi, mon année, elle commence en octobre. On va récolter octobre, fin octobre, début novembre. On arrête.
Ok.
Pendant tout le mois de novembre, mais surtout décembre, on produit les produits de chocolat, donc les truffes, les pâtes à tartiner, les mendiants, tous les produits qui sont autour. On fait très peu de tablettes sur les fêtes de fin d'année, mais on fait beaucoup de produits cadeaux, gourmands.
Ouais.
Donc beaucoup, beaucoup les truffes. Et ensuite, en fin d'année, une fois que les périodes de fêtes sont passées, je reprends en janvier la partie transformation. Donc on va récolter sur quasiment tout le mois de janvier. Je vais parallèlement à ça écabosser, fermenter, donc janvier et février. Une fois qu'on a commencé à écabosser, on a fermenté, on sèche. Donc tout ça quasiment en même temps.
Ouais.
Et je transforme tout de suite après. Donc, je sèche, je torréfie, je transforme ma matière quasiment tout de suite. Entre les cabossages et la fermentation, première fermentation, tu as un peu plus d'une dizaine de jours.
Ouais.
Sur le séchage, pareil, à peu près, en fonction de la météo, en fonction du type de fèves que j'ai, de la variété.
Il faut presque un mois avant que tu puisses le travailler.
Exactement, exactement. Et puis après, on va sécher, pareil, une dizaine de jours, torréfier.
Ouais. Et
une fois qu'on a torréfié, là, je passe en transformation pour pouvoir passer de la matière, donc matière cacao au chocolat. Et ça, pareil, on a pour à peu près... en moyenne une bonne semaine de fabrication.
Ok, ouais, donc en fait c'est ça. Oui, tu vois, c'était, et en fait la question que j'allais te poser avant, à la suite de la mienne, c'était c'est quoi justement les temporalités du coup du cacao, et tu vois, je savais pas du tout que ça donnait deux fois par an, ce qui est déjà en fait assez fou. Enfin, finalement il y a des fèves assez hyper fréquemment, quoi.
Ouais, c'est assez fréquent. Comme je t'ai dit, t'en as quasiment toute l'année. Les deux
Et c'est
grosses
ouf, ouais.
saisons où on va vraiment récolter, mais t'en as quasiment toute l'année.
Et alors après, qui sont plus spécifiques, mais du coup, donc toutes tes fèves proviennent de Guadeloupe.
C'est
Est-ce que
ça.
tu arrives à avoir différents goûts de chocolat? Enfin, tu vois, est-ce que du coup, selon l'endroit du territoire où ça pousse, est-ce que tu arrives à avoir des goûts différents? Voilà, comment tu travailles ça et ou est-ce que tu vois, c'est par exemple parce que c'est des variétés de cacaoyers différents? Est-ce que du coup, toi, donc dans tous les cacaoyers que tu as plantés, est-ce que vous avez décidé d'en mettre de différentes variétés pour avoir des goûts différents? Enfin voilà, est-ce que tu veux?
J'adore ta question. J'adore ta question. Alors, au début, je pensais que c'était uniquement la variété qui jouait sur le goût. J'ai constaté après avoir travaillé plusieurs matières cacao, plusieurs variétés, plusieurs cultivars. J'ai constaté que tu pouvais avoir les mêmes types de cultivars, les mêmes variétés de cacao, qui sont placées dans deux communes différentes et pour un même pourcentage de chocolat. Et que tu auras des saveurs qui sont complètement différentes sur un même territoire. On a une variété de sol en Guadeloupe qui est assez impressionnante. Sur le nord de l'île, on est très calcaire. Sur le sud de l'île, on va être sur un sol qui est volcanique, qui est sur le nord, sud-nord, donc sur la basse terre. Nord de la basse terre, on est très cyano-argileux, limoneux. Il y a des types de sols qui sont une variété, une diversité de sols qui est assez invraisemblable sur un même territoire. Et donc, ça donne une collection de cacao et de chocolat qui sont assez impressionnantes. D'ailleurs, c'est pour ça que sous le logo de la marque, sous le logo Naomi Martineau, on a mis cacao avec S et chocolat avec S, parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y avait une variété assez impressionnante de goût et de saveur sur une même île. Donc, l'idée, c'est vraiment le savoir-faire, ce que je voulais vraiment travailler, un peu comme le vin, c'était de mettre en lumière le plus possible la palette aromatique des différents chocolats que j'avais. Pas avoir quelque chose de lisse, pas avoir un produit où il se passe rien en fait quand tu le mets en bouche. La première fois que j'ai réussi à faire un bon chocolat, j'étais très 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 fière. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est ça, c'est que quand je l'ai mis en bouche, je me suis rendu compte de tout ce qui se passait en fait au niveau organoleptique, au niveau olfactif. Tu te rends compte du nombre de récepteurs qui se mettent en place et du nombre de notes qui arrivent en fait en bouche. Et moi, c'était l'une des premières fois que j'avais cette sensation-là sur un chocolat. Donc j'ai vite compris qu'il y avait quelque chose à valoriser là-dessus. Et à partir du moment où tu veux rendre compte, tu veux agir un peu comme juste un filtre et c'est tout. Nous, on met pas de lécithine de soja, par exemple, dans nos chocolats. On met pas de lécithine du tout. On rajoute pas de beurre de cacao non plus. Parce que déjà, pour moi, ça n'avait pas de sens. L'idée, c'était vraiment d'avoir la matière première brute. Mais justement, en adoptant ces valeurs-là, cette j'ai presque envie de dire, cette ambition, en ayant cette ambition-là, moi, ça me permettait de vraiment avoir le goût brut et de remettre en avant le goût authentique des chocolats, de ce que c'est qu'un chocolat. Et donc, commencer tout ce travail d'identification, de notes, de là, qu'est-ce que je sens, là, qu'est-ce qu'on arrive à ressentir et nommer les choses, ça aussi, ça a été un travail énorme.
Ouais.
Et le pire, c'est que je me suis pas rajouté une facilité, mais pour moi, ça, pareil, ça avait du sens. Sur l'échelle, sur une grille de notation, on va prendre le vin, par exemple, ou le champagne, on va avoir une grille de notation où on va parler de fruits rouges, de fruits jaunes, de pêches, de poires. Moi, c'est des fruits que je connais bien. Et il a fallu justement que je continue à travailler et à évoluer dans cet univers-là pour pouvoir travailler mon palais. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé mon palais. Cela dit, on a aussi des fruits, des épices, des plantes aromatiques chez nous. Et je me suis dit, mais en fait, si on doit créer une échelle, si on doit travailler sur des notes, autant les faire avec des références de produits locaux pour que les gens ils puissent mieux s'approprier encore une fois ces goûts-là. Et pour ceux qui connaissent pas, justement, bah, découvrir des produits qui poussent pas en Hexagone, en Australie, au Japon, voilà. Et donc, il a fallu, ben, pareil, aller goûter et regoûter différents fruits qu'on consomme ou qu'on consomme moins, ou des fruits ou épices ou plantes oubliées, pour pouvoir les remettre elles aussi sur le devant de la scène et dire, ben là, on a un cacao qui est très boisé. Par exemple, le 72%, il est extrêmement boisé. Et il a des notes de fruits rouges, mais je vais pas parler de fruits rouges de fraises ou de framboises. Moi, je vais parler de ce qu'on appelle groseille pays chez nous. La groseille pays, c'est aussi ce qu'on appelle le bissap, c'est aussi ce qu'on appelle l'hibiscus, qui a un goût très particulier, qui a une amertume, une âcreté sur la fin. Et donc, il a fallu vraiment retravailler toute cette échelle-là de goût et proposer aux clients de redécouvrir le chocolat et de le redécouvrir sur une sémantique différente, sur une échelle différente, recréer un écosystème, une autre façon d'approcher le goût, un peu plus local.
Ouais, c'est trop chouette. Et du coup, aujourd'hui, quand tu travailles une nouvelle tablette, qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois, c'est quoi un petit peu les étapes que tu suis vraiment quand tu es sur une nouvelle tablette?
Je vais d'abord goûter la fève fraîche. Je vais
Ok.
regarder ce que c'est. Je vais goûter la fève fraîche. Voir si elle aurait une différence ou pas. Goûter le mucilage. Le mucilage, c'est la pulpe blanche qu'il y a autour des fèves de cacao, qui la protège dans la nature, mais qui est aussi le premier descripteur de goût de celui-ci, puisqu'il fond, il disparaît sur la fermentation, sur la première fermentation en tout cas. Et donc, une fois que j'ai goûté ça, on va vite la torréfier pour pouvoir goûter la matière torréfiée. Et ce n'est que quand effectivement je l'ai torréfiée que je valide ce que je vais en faire ou pas. Parce qu'une fois torréfiée, tu as d'autres notes qui s'expriment. Tu as les premières notes du cacao. Et une fois qu'il a été broyé, Pareil, tu as des choses qui se passent, donc c'est énormément sentir, goûter, sentir, goûter, avant d'ajouter du sucre ou quoi que ce soit. Travailler cette matière neutre. Et c'est en fonction de ça que je vais rajouter du sucre ou pas.
C'est super clair et vraiment, c'est super intéressant pour encore plus comprendre ton univers. Du coup, toi, c'est quoi aujourd'hui ta vision à la fois du chocolat, à la fois de, bah, du coup, de Naomi Martineau, vraiment en particulier, tu vois, enfin, c'est quoi ta vision sur tout ça? Qu'est-ce que tu as envie de faire à l'échelle à la fois, tu vois, nationale, enfin locale, nationale, internationale, enfin voilà.
Ben moi, j'aimerais bien, je pense qu'on a commencé, l'idée c'est de construire l'entreprise s'appelle Maison Martineau, donc c'est construire quelque chose que je peux laisser, qui est une trace. Les métiers d'artisan, c'est ça. Mon grand-père, il était maître orfèvre bijoutier. Donc le travail de la main, moi je l'ai vu travailler, je suis née dedans, j'ai vu ce que c'est. Alors après c'est un autre métier, mais pas si différent que ça finalement. Il a laissé forcément une empreinte, hein, sur moi, sur d'autres membres de la famille, sur l'excellence du travail, sur ce que c'est que de travailler une matière jusqu'au bout, de vouloir faire bien, de la satisfaction client. Donc il y a forcément ça qui joue. J'ai beaucoup joué sur son univers aussi au début. Donc je voulais que les gens voient le chocolat un peu comme un bijou. Donc il y a eu cette transmission-là, en tout cas chez moi, que j'aimerais bien laisser. Et construire quelque chose qui reste. Créer autour de cette matière agricole un produit de qualité. Donc ça veut dire des pratiques agricoles de qualité aussi, même si c'est pas évident. L'agriculture, c'est un métier que je respecte énormément, que j'aime énormément, que j'ai appris à connaître et que j'ai embrassé. C'est un métier à part. C'est un métier avec lequel on travaille avec la nature et avec le climat. Et donc, du coup, c'est un métier qui te rend autant pour l'artisanat, t'en es un peu conscience, mais dans l'agriculture, oui, qui te rend complètement humble par rapport à cette nature où tu te rends bien compte qu'on est tout petit, qu'on maîtrise strictement rien du tout. Je vais illustrer ça très vite et tu vas vite comprendre. On avait planté en 2017, on avait fait des semis et des pots, on en avait 1100. On a eu le cyclone Maria qui est passé. On a tout perdu en 3 heures. Donc il a fallu tout recommencer. Et faut respirer un bon coup. Faut respirer un bon coup et puis se dire que c'est comme ça. Et on est très conscient qu'on a une épée de Damoclès sur la tête tous les ans et que tous les ans on a potentiellement un risque de tout perdre. Mais je crois que dans notre culture aussi, on a cette capacité à se dire que la vie c'est comme ça. Et donc du coup, on vit avec très joyeusement, en se disant bon, ça arrive, ça arrive. On refait ou pas, mais c'est la vie. Moi, j'ai toujours créé cette entreprise-là dans l'idée de pouvoir montrer qu'on savait faire, de faire briller mon territoire. Par extension, la France aussi, hein, puisqu'on est français. Quand on va à l'étranger, on est sous le pavillon France, montrer qu'on est capable de, qu'on peut, si on a envie et avec beaucoup de travail et d'ambition, proposer quelque chose de différent. Donc, moi, j'ai toujours voulu me confronter au monde et voir ce qui se passe dans le monde et montrer ce qu'on est capable de faire. Donc, si on arrive à l'exporter, cette matière, je serais contente. Si on arrive à placer nos tablettes de chocolat, à placer notre chocolat dans des beaux restos, travailler avec des chefs en local, on le fait déjà, mais au niveau national, au niveau international, pour continuer à lui donner de la valeur, parce que bah, c'est aussi ces artisans des métiers de bouche qui valorisent nos travaux. Donc, pouvoir faire reconnaître, continuer à faire reconnaître cette matière-là. Quoi te dire d'autre? Faire les gens découvrir un peu ce qu'on fait. Donc on est en train de créer quelque chose d'assez extraordinaire, je trouve, parce que c'est un projet qui est extraordinaire. Et du coup, je te le dis, tu vas être une des premières à le savoir, mais on est en train de faire un projet autour du cacao, tout autour des Jeux Olympiques et de la flamme. Donc, on a des Olympiens qui viendront sur l'exploitation, ben pour co-créer une histoire avec eux autour de cette plantation-là, de montrer un peu ce qu'on est capable de faire et créer une histoire autour de ça, ou j'irais pas créer, peut-être recréer une histoire autour de ça, puisqu'elle elle a existé, cette histoire-là, mais en faire, lui donner une autre voie, lui donner un autre chemin et la faire vivre cette histoire-là. Peut-être, c'est peut-être plus juste de le dire comme ça.
Moi, je trouve ça génial et surtout, tu vois, enfin, c'est ce que tu disais, du coup, refaire vivre cette histoire, mais en plus, lui donner aussi une dimension qui est plus, tu vois, une vision, une perspective un peu plus heureuse, agréable aussi, tu vois, et
C'est
c'est vrai
ça.
que, enfin, moi, je trouve ça vraiment absolument incroyable, tout ce que bah, tu as déjà fait, tout ce que tu as
Merci.
envie encore de faire. Je trouve ça trop, trop chouette et je suis vraiment super heureuse bah, que tu aies accepté du coup qu'on en discute. Mais vraiment, je trouve ça incroyable, tu vois, de se dire, bah, allez, on remet tout en place, on se retrousse les manches et
Marche.
effectivement, et aller à la fois du côté de bah, la partie agricole et la partie fabrication. Et effectivement, et je pense que. En vrai, ça te donne aussi une autre dimension et ça donne un autre goût à ton chocolat, le fait que tu le cultives toi-même, le fait que bah, tu le vois pousser, tu sais exactement quel impact, tu vois, tous les aléas climatiques, tout le réchauffement climatique, ça a aussi sur toute cette filière. Donc, je trouve ça super riche et absolument passionnant et j'espère vraiment que. Bah, Que tu vas réussir tout ça, enfin, à l'exporter autant que tu veux,
Merci.
et c'est trop chouette. Enfin, vraiment, j'adore ce projet. Donc, vraiment, félicitations.
Merci
Ouais.
beaucoup. Merci beaucoup.
Et bah, pour terminer, je te propose quelques petites questions de te prêter au jeu du questionnaire de Proust, des saveurs, des
Allez,
petites
allons-y.
questions plus légères et rigolotes. Si toi, du coup, tu étais une de tes tablettes, tu serais laquelle?
La 70% de Baïf, parce que j'associe toujours le pourcentage, hein, pour moi un pourcentage ça veut rien dire du tout, c'est l'origine qui compte. C'est un monovariétal qu'on a trouvé, qui était sur une toute petite exploitation minuscule, qui a donné un micro-batch. Et qui a des notes extraordinairement gourmandes. des notes de praliné, des notes de biscuits, des notes un peu, alors le carambole, la maracuja, tout ça complètement naturellement, je trouve ça, enfin, ce batch-là, on l'a pas encore sorti, j'en ai juste fait des tablettes, on va les sortir bientôt, peut-être pour la fête des mères, mais c'est, enfin, il est incroyable ce chocolat. Il n'y en a pas beaucoup, mais ce qu'on a pu en sortir, ouais, ce serait ça.
Et oui, parce que tu disais, ça me donne envie de revenir juste sur ce point-là. Donc
Ouais.
ça, du coup, c'était, tu disais, une monovariété. Donc ça, tu l'as trouvé dans un coin précis, du coup, de
Ouais.
l'île, et avec, du coup, une... Comment d'ailleurs, ça me faisait penser tout à l'heure, j'ai oublié de te poser la question.
Je t'en prie.
Comment est-ce que, une fois que, du coup, le cacaoyer a poussé, enfin, tu vois, comment on voit, en fait, une variété? Est-ce que c'est... Enfin, vraiment, je te dis ça parce que j'avoue que... N'ayant jamais vu de cacaoyer de ma... enfin, à part dans des jardins et des serres et tout, j'ai jamais vu de cacaoyer de ma vie, du coup. Est-ce que c'est comme les pommes? Enfin, je compare vraiment à un fruit que je connais, mais du coup, est-ce que c'est comme les pommes et en fait, les cabosses sont différentes selon les variétés ou c'est autre chose? C'est le feuillage qui change
Très bonne question. Bah déjà, je t'invite à venir, comme ça tu verras. Donc tu
Avec
viens
grand
quand tu
plaisir.
veux. Et nous, on a selon les. Alors tu les vois à la, donc à la forme de la cabosse déjà.
Ok.
T'en as qui sont plus ou moins dodues, rondes, pointues. Ensuite, par rapport à la couleur. Donc, les couleurs changent selon les variétés, du jaune à l'oranger au rouge pourpre. Et donc, du coup, tu peux voir donc les stades de maturation, de maturité, pardon, des cabosses. Et puis après, tout simplement, faut les faire analyser. Comme ça, tu sais exactement ce que c'est. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit juste de regarder et de voir. Non, il y a des grandes familles de cacaoyers qu'on connaît tous, Criollo, Trinitario, Forastero. Chez nous, on en a une Otame, Lonano. C'est des grandes familles, mais après, derrière, t'as des souches qu'il faut identifier, et c'est là aussi tout le travail. Après, ça se voit assez rapidement, quand tu les travailles, quand tu les transformes. Tu peux aussi les associer très rapidement au niveau gustatif.
Oui, ouais,
Donc,
c'est ce
ils
que j'allais te
iront au goût.
demander.
C'est ça.
Donc, il y a effectivement une façon un peu, enfin, tu as un peu une pré-méthode entre guillemets pour tout ce qui est criollo, une pré-méthode pour tout ce qui est forastero,
C'est ça.
quand
En
même, ok.
sachant que moi, je fais pas de différence, je refuse de faire une différence, ou surtout de pousser à du monovariétal. Toutes les cultures, toutes les variétés se valent pour moi. Il faut juste les mettre en avant, et les travailler pour qu'on puisse les apprécier. Je veux pas de monovariétal parce que je sais ce que ça peut être comme danger sur un territoire, et ce que ça peut être comme danger sur un territoire aussi petit que le nôtre. Donc, non, l'idée c'est vraiment de partir, par contre, de variétés patrimoniales, de partir de ce qu'on a et de les mettre en avant, mais de les mettre tout en avant. D'où le fait que vraiment, on met le pourcentage parce que c'est indicatif, parce qu'on est obligé de le mettre pour les vendre. Mais ce qu'on vend surtout, ouais, c'est un territoire, c'est un terroir,
Ouais.
on fait du chocolat de terroir. On fait pas,
Très intéressant. En tout cas, non, mais c'est trop trop chouette. Du coup, toi, donc, outre celui-ci, le chocolat dans ce que t'as, dans ce que tu fais, dont tu peux plus te passer.
Les chocolats, donc je peux plus me passer la truffe maracuja. Et ça a toujours été, dès qu'elle a été créée, quand j'ai créé ma première ganache maracuja, ouais, depuis, déjà la passion, c'est mon fruit préféré. Et donc, ça a été la première que j'ai créée en ganache, et ça reste celle que, voilà, que j'apprécie énormément. Ouais, ce serait celle-là.
Très bien. Et est-ce qu'il y a un chocolatier, une chocolatière, un pâtissier, une pâtissière dans n'importe quel pays du monde avec qui tu aimerais bien du coup faire une création à quatre mains. Donc soit utiliser un de tes chocolats pour faire je sais pas une pâtisserie, soit vraiment tu vois travailler en fait vraiment une cabosse pour faire une tablette à quatre mains. Enfin voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as en tête? Ça peut être aussi un cuisinier ou une cuisinière hein, potentiellement. Et donc, ça peut être en Guadeloupe ou n'importe où ailleurs.
Oui, avec la chef Kelly. Chef Kelly, j'aimerais bien ouais, qu'on puisse lui créer alors soit un chocolat signature pour son restaurant à Paris, soit des tablettes, effectivement, soit vraiment une création dessert. C'est quelqu'un que j'ai rencontré qui est extrêmement extrêmement humain, avec qui le contact est passé tout de suite. D'ailleurs elle a planté son cacaoyer sur l'exploitation quand elle est passée en Guadeloupe, et c'est quelqu'un que j'ai apprécié et que j'apprécie énormément pour tout le travail qu'elle fait de valorisation des territoires dits ultramarins, des territoires d'outre-mer, et sa manière d'appréhender la matière première est assez proche de la mienne, donc ouais, c'est quelqu'un avec lequel j'aimerais bien faire un dessert autour de mon chocolat, ce serait top.
Bah écoute, je te souhaite en tout cas. Bah, je te redis, merci beaucoup vraiment pour ton temps et ce partage qui était exceptionnel. Et je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode, soit quelque chose dont on n'a pas encore parlé, soit un résumé, ce que tu veux. Mais...
ce serait peut-être un conseil pour nos consommateurs de chocolat ou les amoureux de chocolat. Au-delà de lire les étiquettes, c'est important de lire les étiquettes de vos produits. Nous, on fait ça parce qu'on veut aussi conscientiser les gens sur ce qu'ils mangent. Et le chocolat, c'est un produit qui est extrêmement noble, qui est un peu tombé dans la mass market, dans le mass produit, mais c'est un produit qui est extrêmement noble de par toutes les étapes qu'il demande de fabrication à la main. Et donc ouais, quand on consomme un chocolat, on consomme un produit très personnel, très qui a demandé beaucoup de soins. En tout cas, quand il est bien fait. et donc, ouais, que les gens prennent conscience de ça, de ce qu'ils mangent. C'est pas juste un carré de chocolat. Derrière, il y a eu énormément de travail pour que justement on puisse enchanter 2 minutes de plaisir en bouche. Donc, ouais. Si je dois dire quelque chose, peut-être là, ce serait à chaud, là, ce serait ça. Derrière un carré de chocolat, il y a tout ça. Il y a de la vie, il y a des gens, il y a une matière qui est pas extensible. Voilà, il y a un modèle économique aussi différent. Parce que voilà, on va pas revenir sur ce qui se passe dans le monde autour du cacao et du chocolat. Je pense que les gens ils sont assez informés maintenant. On peut pas dire en tout cas qu'on n'est pas informé. Donc être conscient que voilà, quand il y a des jeunes ou moins jeunes, mais c'est surtout les jeunes. On a pas mal de jeunes qui créent des choses sur nos territoires. Dans leur globalité, hein, quelles que soient les régions de France. Ouais, prendre conscience que c'est ça. C'est pas juste un carré de chocolat.
Non, c'est ça. Ça a demandé des années de travail. Depuis le moment où on le sème jusqu'au moment où on a une tablette.
C'est ça.
Bah écoute, vraiment merci beaucoup. Je te le redis, c'était trop bien de pouvoir discuter avec toi. Donc vraiment merci pour ton temps.
Merci à toi d'avoir pris le temps et de me permettre d'en parler. Merci beaucoup.
Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @lea_rvrd. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt !